Le problème, il faudrait que les nations qui acceptent d'être chapeautées par ce gouvernement mondial puissent sortir aussi de leur état d'esprit qui est le nationalisme. Donc, il y a d'abord la nécessité pour moi de mettre en place une vraie structure supranationale, un carrefour transnational, un processus de planétarisation, donc à l'échelon de la planète, un gouvernement mondial. Alors j'aimerais savoir, d'après Bernard de Montréal, si c'est une possibilité qu'il entrevoit, et puis comment est-ce que ça se passerait. Est-ce que c'est simplement au niveau législatif? Est-ce que l'ONU, par exemple, est un embryon de ce gouvernement mondial, et les casques bleus une espèce de police universelle? Ou alors, est-ce qu'il faut passer par une transformation attitudinale profonde, c'est-à-dire une identification de l'espèce humaine tout entière, plutôt qu'à un sous-groupe? Est-ce que ça va passer par une révolution du cerveau pour assurer la pérennité humaine, la succession de la race humaine, telle que le prétend, par exemple, l'auteur de la révolution du cerveau, les enfants du Verseau, qui est Marilyn Ferguson, qui, elle, prétend que ça passera par une révolution du cerveau.
Le concept de la révolution du cerveau n'est pas mauvais, parce que si nous parlons de l'évolution de l'homme, si nous parlons de la fusion de l'homme, si nous parlons de l'intégration de l'énergie créative dans l'homme, il est évident qu'éventuellement l'homme, en tant qu'être nouveau, possédera une conscience nouvelle, donc une activité cérébrale totalement nouvelle, donc une révolution du cerveau. Mais il faut aller plus loin que la contemplation purement cartésienne ou philosophique ou clinique de cet aspect de l'homme, parce que si nous parlons de révolution du cerveau simplement à partir de la conception que nous avons de sa nature, nous sommes forcés à constater que le cerveau en lui-même, le cerveau matériel, est une industrie physico-chimique qui pourrait être sujet à une mutation. Mais ce n'est pas assez. Ça va beaucoup plus loin que ça. D'abord, le cerveau de l'homme, tel qu'il est aujourd'hui, il est parfaitement développé. Ce qui manque dans l'évolution de la conscience humaine, c'est l'allumage des cellules. L'allumage des cellules ne peut pas se faire à partir de l'homme lui-même. Autrement dit, une transmutation de cet ordre ne peut se faire qu'à l'intérieur d'un calendrier cosmique, c'est-à-dire à l'intérieur d'une période où des forces psychiques d'un ordre nouveau pour nous, les hommes, descendent vers le plan matériel pour créer dans ce cerveau, dans les cellules, dans les neurones, une nouvelle vibration qui engendre un nouveau motif de pensée, une nouvelle façon de penser, donc une nouvelle conscience. Pour que l'homme dépasse le constat mondial, planétaire ou universel de son esprit ou de son instinct d'agression, il faut qu'il lui soit donné une nouvelle conscience. Et lorsque je dis donner une nouvelle conscience, je ne veux pas dire que l'homme puisse arriver à cette nouvelle évolution même à partir de la spiritualisation psychologique de son ego. Autrement dit, même les religions, même les vertus spirituelles d'une conscience raffinée sur le plan de la métaphysique ne peut pas donner à l'homme cette nouvelle conscience, parce que même à l'intérieur des cadres d'une conscience spiritualisée, nous pouvons vivre une sorte d'agression. Par exemple, si nous allons dans le monde aujourd'hui et que nous amenons des individus appartenant à des cercles ou à des régimes spirituels différents que nous voyons aux États-Unis ou en Europe, en Orient, et ainsi de suite, et que nous amenons ces individus ensemble, nous sentons l'agressivité qui existe. Nous sentons que ces individus ne sont pas capables, même s'ils sont très avancés au niveau spirituel, ils ne sont pas capables de se désengager de la valeur psychologique de leurs concepts, même si ces concepts sont très élevés. Donc, même ces êtres spirituels qui jonchent le sol de la planète représente un certain niveau d'agressivité spirituelle. Et je connais des gens dans la salle qui comprennent très bien ce que je veux dire parce qu'ils ont connu cette expérience. Et d'ailleurs, c'est une des raisons très probantes pour laquelle il est absolument impossible aujourd'hui dans le monde d'unifier les hommes qui possèdent déjà une conscience spirituelle ou qui ont vécu un acheminement spirituel avancé. Il y a toujours la territorialité, il y a toujours leur église, il y a toujours leur secte, il y a toujours leur façon de penser, ainsi de suite. Bon. Donc, nous sommes encore dominés par la domination. Nous sommes encore dominés, autrement dit, par des façons de penser qui émanent souvent de personnages que nous respectons spirituellement. Et pour que l'homme en arrive éventuellement à pouvoir se dissocier de toute forme d'agressivité, autant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, parce que si nous ne sommes pas capables de nous dissocier d'une forme d'agressivité ou d'agression sur le plan spirituel, imaginez-vous ce que nous pouvons faire sur le plan intellectuel. C'est presque impossible. Donc, si l'homme n'est pas capable, sur le plan spirituel, de se dissocier de son attachement vorace à la valeur de la forme qui le nourrit égoïquement, il ne pourra jamais en arriver à pouvoir convertir l'énergie créative de son mental en une sorte de dynamique fluide à l'intérieur de laquelle toute forme de coloration subjective disparaît. Pour donner à cette dynamique créative, autrement dit à cette parole, une universalité tellement grande, tellement déégoïfiée, qu'elle ne lui appartient plus, ni spirituellement, ni mentalement, ni psychologiquement, ni psychiquement. Elle fait simplement partie de la conversion de l'énergie à travers le cerveau pour l'évolution de l'homme lui-même et naturellement, conséquemment, pour l'évolution des sociétés humaines au cours des siècles à venir. Donc, ceci nécessite une transmutation psychique. Non pas simplement une transmutation du cerveau, mais une transmutation psychique. Et c'est la transmutation psychique qui créera éventuellement la transmutation du cerveau. Non pas dans son apparatchik, non pas dans son appareil matériel, mais dans son appareil électromagnétique, dans le cellulaire. Ce que Aurobindo appelait, par exemple, la conscience des cellules. Qu'est-ce que c'est la conscience des cellules? C'est la capacité de l'homme de faire naître en lui, dans un instantané, une énergie qui, passée par le cérébral, passée par l'appareil matériel, devient vocalisée, devient exprimée, mais dans une forme totalement originale, totalement créative, totalement décousue d'un lien personnel avec elle. Autrement dit, c'est comme si on pourrait dire, la conscience créative de l'homme nouveau n'appartient pas à l'homme lui-même, elle fait partie de la genèse du surhomme. Elle fait partie de la totalité morontielle de l'acceptation vibratoire de l'énergie à travers le territoire cérébral pour l'expression dans le monde d'une nouvelle force créative, mais qui n'est pas assujetti à la domination instinctuelle de l'émotion humaine et ni non plus assujetti à la territorialité psychologique qu'on appelle la connaissance et ou la vertu de la connaissance que l'on s'attribue afin de pouvoir se donner l'exclusivité du savoir. Donc, l'homme nouveau vivra d'abord une transmutation psychique qui, naturellement, créera un rassemblement d'énergie dans son cerveau, mais en allumant une glande entre les deux yeux, glande qui, elle, nourrira toutes les neurones instantanément, et c'est ceci qui éliminera de la conscience humaine le besoin de mémorifier ce qu'il sait. Donc, ça permettra à l'homme de canaliser son énergie créative d'une façon instantanée, sans égoïcité, sans coloration, et on ne pourra pas dire de l'homme qui le fait que cette connaissance fait partie de lui en tant que penseur. On dira qu'elle fait partie de l'homme universel dont lui fait partie intrinsèquement en tant qu'unité biologique ou plus tard en tant qu'unité éthérico-matérielle. Ceci éliminera de la conscience humaine le besoin de l'agression qui fait partie des forces de l'âme à travers l'ego. Qu'est-ce que c'est l'agressivité? Ce n'est pas intégral pour un anthropologue de dire que les hommes sont devenus agressifs à un certain temps de l'involution, parce que le phénomène de l'agression existe même dans le royaume animal. Donc, le phénomène de l'agression existe dans le royaume animal, mais dans le royaume animal, l'agression n'est pas péjorative parce qu'elle n'est pas dictée par les lois de l'émotion. Elle est simplement dictée par les lois de la réflexologie. Tandis que chez l'homme, l'agression, elle est régie par les lois de l'émotion parce que l'homme, ayant découvert le principe de la territorialité, il a actualisé ce principe en fonction de son besoin mental de se donner quelque chose, alors que l'animal, lui, ne se donne rien. Il fait simplement partie instinctivement d'un territoire qui lui est donné vibratoirement par intuition animale à partir du monde collectif des âmes. Donc, ce n'est pas l'animal qui lui-même est agressif, ça fait partie des lois magnétiques de son corps astral d'entrer en conversion instantanée avec la vibration pour donner sur le plan matériel un certain rendement à sa culture animale afin de préserver son espèce. Tandis que l'homme, lui, au lieu de persévérer dans l'éducation sensible de ses sens sur le plan de l'émotivité, il a renvoyé à son intellect ou à son émotivité humaine animalisée, la fonction de se donner une territorialité afin de protéger ses avoirs. Ceci fait partie non pas du monde naturel de l'homme, mais fait partie du monde animique à travers l'homme qui s'instruit de son expérience. Autrement dit, si l'homme est devenu irresponsablement agressif, ce n'est pas à cause de la dysfonction de son mental ou de son émotivité, mais c'est à cause de son incapacité de raisonner créativement à l'énergie de l'âme. Donc l'homme a été prisonnier pendant l'évolution des forces de l'âme. Ces forces de l'âme ont créé les nécessités historiques de son expérience. Elles ont créé donc le mouvement pendulaire de son expérience au cours de l'histoire, qui aujourd'hui est devenu extrêmement complexe et se révèle dans toutes les combines politico-économiques, religieuses, spirituelles de notre avoir, de notre patrimoine. Mais l'animal n'est pas ainsi. L'animal ne souffre pas dans la gestion vibratoire de ses centres, tandis que l'homme, lui, souffre dans la gestion vibratoire de ses centres parce que ce n'est pas normal d'être agressif égoïquement ou émotivement. C'est normal d'être agressif réflectivement ou instinctivement. Il faut se protéger. Mais être agressif égoïquement ou émotivement, ce n'est pas normal. Ça fait partie du pouvoir de l'âme sur l'ego. Donc, ça fait partie de l'expérience de l'homme. Donc, ça fait partie de la soumission de l'homme aux lois occultes de la vie. Donc, ça fait partie de l'incapacité de l'homme de contrôler les forces qui font partie de l'organisation interne de son psychisme. C'est pourquoi l'homme nouveau, ayant compris ceci, ayant compris que l'âme est une domination, ayant compris que la nature même de son vouloir est en fonction directe de sa capacité vibrante sur le plan mental et émotif de répondre aux besoins de l'âme, ou même aux besoins des entités dans le monde astral, qui souvent se conviennent ou conviennent en une pluralité pour travailler avec lui à son insu, l'homme nouveau pourra se libérer de ceci et entrer finalement en harmonie vibratoire avec la résonance de son esprit et l'agressivité cessera instantanément. Il ne pourra plus être agressif sur le plan matériel, il ne pourra plus être agressif sur le plan mental, il ne pourra plus être agressif parce qu'il n'aura plus sur le plan psychologique à défier les lois de la nature auxquelles, pendant l'évolution, il fut assujetti. Il sera parfaitement en harmonie avec les lois de la nature, et lorsque je parle des lois de la nature, je ne parle pas simplement des lois de la nature matérielle, je parle des lois de la nature invisible qui coïncideront parfaitement avec le matériel. Ayant compris que spatialement et temporellement, il est toujours à la bonne place, ayant compris que spatialement et temporellement, son expérience en relation avec la valeur choc d'une contrainte entre son corps et un autre corps matériel, il y a une transmutation. Il ne pourra pas vivre l'agressivité vis-à-vis de l'autre corps matériel. Il intégrera le choc pour transmuter son centre émotionnel pour devenir un être encore plus mental. Bon, je vous donne un exemple que je prends dans ma vie directement parce que probablement ce que je dis est un peu abstrait. Je me rappelle, durant mon initiation, que je me promenais un soir sur la rue et qu'un individu est arrivé à moi, il m'a frappé, il était saoul, il m'a frappé. Moi, j'ai tombé par terre, je ne suis pas grand boxeur, et j'ai tombé par terre, et alors que j'étais par terre, j'ai entré en communication avec mon double, Et j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me le lève et je le tape ou je reste? Il me dit, reste et absorbe le choc pour la transmutation du centre émotionnel. Donc, je ne pouvais pas manifester d'agressivité vis-à-vis de l'individu parce que déjà, j'avais été spatialement et temporellement placé à la bonne place.
Si on peut dire.
Ceci, c'est de la conscience. Une autre expérience parallèle à celle-ci prend en cause mon épouse qui, avec une amie, marchait sur la rue et déjà l'après-midi, j'avais été dit, ce soir vers 8 h, ton épouse recevra un coup de poing dans le ventre et elle était enceinte dans ce temps-là. Pourquoi? Pour absorber ce choc. Pour transmuter la conscience égoïque de l'homme, la conscience qui, naturellement, à cause de sa nature, a tendance à être agressive afin de comprendre les lois de l'énergie et de comprendre en tant qu'homme conscient que nous sommes toujours à la bonne place et temporellement bien situés pour la transmutation de nos centres dans la mesure où on est capable d'absorber l'énergie qui vient et qui entre en nous et qui bouleverse la totalité de notre être. Donc, les théories anthropologiques ont de la valeur dans ce sens qu'elles demeurent des constats de l'évolution, mais elles n'ont pas le pouvoir d'exprimer ou d'expliquer les raisons ou les dynamiques derrière le corps matériel ou le centre émotionnel qui poussent l'homme à une certaine activité. Ceci sera fait par l'homme conscient qui pourra déchirer les voiles de la conscience, déchirer les voiles de l'organisation interne des forces qui travaillent psychiquement avec lui et qui le place pour l'expérience, selon qu'il est conscient ou non, spatialement et temporellement, dans le bon endroit, pour la bonne cause. Donc, à partir du moment où l'homme aura compris ceci, il transmutera instantanément son agressivité, et autant on peut dire que l'agressivité fait partie de l'organisation de la programmation génétique de l'homme, autant on pourra dire que c'est une réalité temporaire qui fait partie de l'ignorance de l'homme, de l'ignorance des lois de la conscience, réalité programmatique et génétique qui peut être instantanément arrêté, éliminé, dans la mesure où l'homme connaît, comprend les lois de l'énergie.
Et c'est là un peu que se situe votre intervention dans ce que vous faites, dans votre travail, dans le sens, comment est-ce que je pourrais dire ça? Bon, coupé.
Dans le sens que dans mon travail, ce que je fais, c'est d'essayer de faire comprendre.
Ça y est, rebranché. Ils me disent que... Allez, on coupe. Ça y est, ça branche. Voilà, je le prends tout de suite. Alors, je vois un arbre, et un arbre avec des branches desséchées. Et ça me dit que vous faites un peu le travail du jardinier, autrement dit un travail d'élagage ou d'émondage, où on coupe les vieilles branches pour faire germer de nouveaux bourgeons, de nouvelles branches. Est-ce que vous comprenez ceci?
Oui. Oui, ça a beaucoup de sens, parce que l'arbre, il a perdu sa souplesse, il a perdu sa vitalité, parce que nous avons développé trop d'attitudes, nous avons développé trop de mécanismes qui alourdissent notre arbre. Donc, avec la connaissance qui vient de plus en plus dans le monde, nous allons comprendre les lois de l'énergie, donc ceci va nous amener à comprendre les lois du mental, les lois de l'émotion. Et une fois que nous allons comprendre les lois du mental, la nature de l'émotivité va changer, donc la personnalité de l'homme va se déprogrammer naturellement. Donc l'homme, au lieu de vivre en fonction de ce qu'on appelle la programmation génétique, qui est très dangereuse à dire, parce que lorsque nous parlons de programmation génétique, nous assujettissons la nature de l'homme à une matérialité, c'est-à-dire à une composante physico-chimique qui fait partie des gènes, dont la composition complexe est sujette aux lois de la continuité pour la préservation de la race ou l'expérience de la race. Mais ceci n'est juste que dans la mesure où la programmation génétique de l'homme peut être altérée par le changement vibratoire de ses centres, parce que les chakras de l'homme, les centres psychiques de l'homme, sont les fenêtres à l'intérieur de laquelle ou à travers laquelle ou à travers lesquelles l'énergie cosmique entre pour donner aux génétiques soit la continuité astrale, la continuité qui est astralement maintenue, ou la discontinuité qui est cosmiquement enregistrée. Autrement dit, l'homme, il est programmé génétiquement tant qu'il demeure astral. À partir du moment où il cessera d'être astral, sa programmation génétique cessera parce que la relation avec sa conscience astrale, qui est une relation avec la dimension animale de son expérience, sera altérée par le fait que, ayant compris les lois de l'énergie, il ne pourra plus s'assujettir à sa façon de penser, donc à sa façon de répondre à l'attaque ou au choc dans le monde. Il aura compris que la dimensionnalité de son expérience, à partir du moment où il est en contact avec le lien cosmique, est une dimensionnalité de transmutation. Donc à partir de ce moment-là, la programmation génétique de la race ne servira plus pour lui, et on dira de cet homme tout d'un coup, « Ah, vous n'êtes plus comme vous étiez avant. Vous êtes changé, vous êtes tombé sur la tête. Comment se fait-il que vous ne répondez pas aux paramètres sociologiques? Comment se fait-il que on est 12 012 et que vous ne pouvez pas participer à être 12 012? Comment se fait-il que vous ne pouvez pas faire comme tout le monde? Ce n'est pas parce que on ne veut pas faire comme tout le monde, c'est parce que c'est impossible à un être humain de faire comme tout le monde quand il est réel. Chacun fait comme il doit. Donc, s'il y a 12 012, mais il y a 12 012 différentes identités, au lieu d'avoir 12 012 personnages faisant partie d'un grand ver de terre qui mange sa queue et qui finit comme étant une boutade à la vraie nature de l'homme.
Et votre travail s'inscrit là, ou votre intervention, dans le sens que lorsque vous fracturez continuellement des concepts, que vous remettez continuellement en question des vérités, c'est ce travail d'élagage ou d'émondage que vous...
Oui, je suis obligé d'attaquer le faux et la vérité, parce que la vérité fait partie du faux. La vérité, c'est l'envers du faux. Le faux, c'est l'envers de la vérité. La vérité et le faux font partie de la dualité du mental inférieur de l'homme. Tant que l'homme sera prisonnier de la vérité et du mensonge, il sera totalement dans l'astral de son mental. À partir du moment où l'homme sera libre de cette dualité, il sera dans le réel de son mental, c'est-à-dire qu'il sera dans le vide de son mental et deviendra un être créatif mentalement. Donc, à ce moment-là, il ne sera plus intéressé à la vérité ou au mensonge, il verra à travers, il le laissera le mensonge s'il est nécessaire, il laissera la vérité s'il est nécessaire. Mais pour lui, la vérité et le mensonge n'existera plus parce que il n'aura plus besoin de conceptualiser la vie afin de pouvoir s'approprier une forme de sécurité. La vie sera lui-même, il sera lui-même vie sur le plan mental, donc étant vie sur le plan mental, il aura la capacité créative de la vie sur le plan mental, et la capacité de la vie sur le plan mental, c'est de faire descendre l'énergie pour lui donner une forme, donc il aura la parole. Donc, à partir de ce moment-là, l'homme ayant la parole, il pourra apprendre les choses de la matière ou de l'invisible, en parlant, il n'aura qu'à parler, il s'entendra parler, il dira, ah, c'est intéressant ça, ce que j'ai dit. Comme ça. Au lieu de réfléchir,
quand il va vouloir le parler, il va se faire couper.
S'il se fait couper, c'est parce que son double coupe, pour jouer avec l'ego, pour faire conscient, pour rendre encore l'ego conscient que ce n'est pas lui qui parle, pour l'ego conscient que c'est sa partie cosmique qui parle, c'est pour ça que le double coupe. Quand nous sommes inconscients que le double nous coupe, on se dit, ah, j'ai perdu la mémoire. Mais quand on est conscient que le double nous coupe, on dit, ah, l'enfant tiens, il m'a coupé. C'est une très grande révolution du cerveau. Et ce n'est pas facile. Moi, je me rappelle l'expérience de mon épouse, à qui je présente un individu que je connais depuis des années, et je dis à cet individu, je te présente ma femme, comment elle s'appelle?
Pierrette.
Ah. Alors, avec la vie, on apprend toutes sortes de choses. Et avec le temps, on ne se prend plus au sérieux. L'épouse perd son insécurité d'épouse, elle perd l'insécurité émotive de la femme qui se dit « Ah, mais mon mari ne me connaît pas, il ne me reconnaît pas, qu'est-ce qui se passe? » Enfin, éventuellement, on devient émotivement libre de ces jeux de l'esprit ou du double à travers l'ego, et à partir du moment où on commence à être libre, c'est là que l'on commence à être créateur, c'est là que l'on commence à pouvoir parler et cesser de penser. Penser, c'est fatigant. C'est terrible. Mais parler, c'est plaisant. On peut parler pendant des jours. Je parlais aujourd'hui intérieurement avec mon double et je disais, quelle est la différence entre l'homme qui pense et l'homme qui communique intérieurement? Il me disait, l'homme qui pense, il n'a aucune conscience de communiquer intérieurement, tandis que l'homme qui communique intérieurement ne peut pas penser. Il sait toujours que ce qui se passe dans son cerveau, c'est de la communication entre lui et son double. Et à partir de ce moment-là, la vie devient très plaisante parce qu'on n'est jamais seul, on ne peut jamais s'ennuyer. Ma femme et ma fille aujourd'hui sont dans le sud et moi je suis ici, je suis tout seul chez moi. Et naturellement, comme ma femme n'est pas là, ma fille n'est pas là et je n'ai pas d'amis dans le coin, à ce moment-là, je parle avec mon double toute la journée.
Ça mange pas de pain.
Donc, je passe des journées agréables. Mais naturellement, si on me regarde à travers la vitre, on va dire, ben, ce gars-là, il est totalement capoté. Mais comme je suis habitué à cette communication interne, je n'ai pas à bouger mes lèvres. Donc, comme je ne bouge pas mes lèvres, bon, je me promène dans la maison comme si j'étais absolument abasourdi, et je suis très conscient de ce qui se passe.
Est-ce que vous pensez que l'avènement du supramental pourra mettre en place des structures supranationales?
Ça, c'est une question très intéressante en ce qui concerne le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial ne pourra pas être formé par les hommes parce que les hommes sont incapables de volonté politique. Le gouvernement mondial sera formé par des êtres qui font partie d'une certaine conscience, qui font partie d'une certaine dimension, des êtres qui ont accès à la dimension éthérique de leur conscience, des êtres qui seront capables de se dédoubler, c'est-à-dire de se séparer de leur corps matériel, de maintenir leur corps matériel en suspension pour pouvoir travailler sur d'autres plans, exercer certaines influences créatives. Ce que nous pouvons appeler une sorte de régence planétaire. Ces hommes, ces êtres sont dans le monde, ils sont déjà comptés, ils font partie de l'évolution. Ces êtres se reconnaîtront dans le temps, ils se réaliseront dans le temps, ils iront dans le temps où ils ont à aller. Il y a un certain nombre de ces êtres qui seront munis d'un certain privilège. Je dis privilège parce que ce sont des êtres qui sont déjà très très avancés sur le plan de l'évolution et ce sont des êtres qui ont déjà une formation cosmique sur le plan de l'organisation politique des gouvernements invisibles et des lois de la gouvernance, les lois de la gouverne. Ils connaissent parfaitement les lois de la gouverne, comment on gouverne une race à partir des plans. Et ces êtres qui sont aujourd'hui sur la Terre auront une très grande influence occulte, naturellement, c'est-à-dire à travers la manifestation de leur conscience éthérique, et ils pourront donner de grands conseils aux hommes qui aujourd'hui font la gestion des nations. Et ce sont ces êtres en relation avec un autre être qui auront la tâche de créer ou de jeter les fondations extrêmement avancées, extrêmement occultes et extrêmement instantanées d'une nouvelle civilisation qui prendra le monde par surprise. Il nous est absolument inutile de concevoir philosophiquement, spirituellement, une convention mondiale parce que plus les hommes avancent, plus ils sont incapables de comprendre la différence entre la politique, l'économie, le gouvernement et l'énergie. Les hommes ne sont pas capables, ni les capitalistes, ni les communistes, ou les sociologistes, ou les socialistes, de comprendre que ce ne sont pas les forces sociales qui déterminent l'histoire. Comme on a tendance à le croire aujourd'hui, comme beaucoup, et surtout en Russie, on le croit. Ce ne sont pas les forces sociales qui déterminent l'histoire. L'histoire est déterminée par les forces psychiques des hommes, donc des masses, à travers les formes que nous appelons les formes sociales. Et c'est pourquoi, souvent, au cours de l'histoire, nous avons des changements extrêmement rapides, extrêmement instantanés d'une politique. Nous regardons, par exemple, la Chine communiste qui a fait rupture presque totale avec la Russie. Mao Tse-tung. Ceci est absolument imprévisible selon les lois de la diamate ou de la dialectique matérialiste russe. Donc, il y a des mouvements dans le psychisme des masses comme des mouvements dans le psychisme de l'individu, souvent des mouvements qui sont extrêmement actualisés à travers des chefs, des Nasser, des De Gaulle, des Kennedy, des instituts, des Mao Tse-tung. C'est à travers ces hommes-là que ces mouvements d'énergie se manifestent dans une très grande vitalité, parce que ces hommes ont un certain charisme, et le charisme a tendance à magnétiser les foules qui n'ont pas d'identité, et ces hommes ont une certaine caractérologie d'identité. Même s'ils n'ont pas une identité réelle, ils ont quand même une caractéristique d'identité qui se manifeste dans leur charisme, comme par exemple l'ancien premier ministre Trudeau, que l'on aime, le bonhomme, ou que l'on n'aime pas, c'est absolument sans importance, mais c'est un type qui, effectivement, était charismatique, bien qu'il ne l'était pas religieusement. Sur le plan de l'histoire, nous découvrirons à la fin du cycle que de nouvelles forces pénètrent la conscience de l'homme, Moi, j'en suis un exemple, il y en a d'autres dans le monde qui sont d'autres exemples. Chaque homme vit cette descente d'énergie selon sa propre évolution, sa propre capacité mentale, émotive, d'absorber ce choc d'énergie, et c'est ceci qui créera la transmutation. Mais avec cette différence, que les nouvelles forces de l'évolution seront extrêmement éthérico-célébrales, alors qu'auparavant, les forces de l'évolution étaient plutôt intuito-psychologiques. Autrement dit, les hommes dans le passé que nous avons considérés grands à cause de leur charisme, les hommes qui ont influencé les arts, la littérature, la politique, l'économie, étaient de grands intuitifs. Donc, ces hommes, à travers leur grande intuition, ont quand même amené l'évolution des sociétés dans un certain virage. Ils ont créé certains mouvements. Mais leur intuition a tout de même fait partie de leur propre expérience karmique et aussi a fait partie de l'expérience karmique des nations. Alors qu'au cours de la prochaine évolution, l'expérience de l'homme sera totalement éthérico-célébrale, de sorte que, pénétré de cette énergie, il ne pourra plus vivre cette énergie en tant que philosophe, en tant qu'artiste, en tant que penseur. Il vivra cette énergie en tant que créateur, c'est-à-dire qu'il sera capable de déplacer éthériquement son corps et de donner à son corps éthérique la capacité d'entrer en contact matériel avec d'autres individus dans le monde. Et c'est par la vertu de cette communication, de cette ubiquité, de cette télépathie, de ce magnétisme extraordinaire qu'ils seront capables d'imposer une nouvelle volonté créative à ceux qui aujourd'hui sont dotés d'une certaine ou d'un manque de volonté créative selon la nature des états qui correspond à leur expérience politique. Invisible, et viendra ensuite l'aspect désocculté d'un gouvernement invisible qui sera, sur le plan des masses, bien vu, très bien reçu, mais dont la plupart des masses nous pourrons comprendre l'aspect ultimement cosmique, universel et éthérique.
Dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y aura une étoile qui tombera du ciel et que cette étoile a pour nom absinthe, donc quelque chose d'amer. C'est cette boisson que buvaient nos aïeux qui leur, d'ailleurs, faisait tourner la tête. Donc cette étoile tombe sur la terre et pollue toutes les eaux, toutes les mers, ça pollue la terre et lui donne ce goût amer. Elle a pour nom absinthe. Et je viens d'apprendre que absinthe, en russe, ça se dit Tchernobyl. Est-ce que ça veut dire que c'est sous l'effet d'un accident, d'un événement planétaire, qu'il y aura un consensus qui va se faire à l'échelon des nations, un rassemblement pour voter un gouvernement mondial? Est-ce que ça prend un choc planétaire, une prise de conscience comme quoi, finalement, il n'y a pas de réelle frontière entre les nations, que l'atome se déplace à travers les airs, donc il y a lieu de faire un consensus là-dessus. Est-ce que ça peut être suite par exemple au désastre ou à l'affrontement des nations pour des raisons idéologiques ou religieuses comme au Liban, où on voit toutes ces fractions religieuses s'autodétruire?
Les nations doivent vivre le choc d'une certaine réalisation de l'incapacité de l'homme de naître de lui-même. Les nations ont un karma mondial, comme les individus ont un karma personnel. Les individus vivent leur karma personnel en tant que conscience expérimentale jusqu'à temps qu'ils connaissent le début de la conscience et éventuellement la fusion. Les nations sont la même chose. C'est absolument impossible d'empêcher les nations de vivre leur karma parce que toutes les activités des nations, activités dites négatives des nations, sont enregistrées dans les annales. Et tout ce qui est enregistré dans l'astral doit servir à l'expression de certaines forces cosmiques sur le plan matériel pour la transmutation psychologique des masses. Les masses doivent vivre la crise, elles doivent vivre un choc psychologique afin de pouvoir être prêts à recevoir finalement le choc cosmique. Je suis content que vous me demandiez cette question parce que moi-même, j'ai souvent demandé comment se fait-il que nous, les hommes, sur le plan matériel, dans notre expérience personnelle, nous sommes obligés constamment de vivre des crises afin d'avancer. Et vous savez, les gens dans la salle, que toute votre vie est une suite de crises. Vous vivez des crises, vous vivez des crises, et avec le temps, vous ajustez, vous commencez à comprendre. En tout cas, j'espère que la plupart des gens avec les crises s'ajustent et vous appelez ça au cours des années une certaine sagesse, ainsi de suite. Mais à partir du moment où l'homme devient conscient, il en arrive à ne plus vivre de crise parce que il a complètement contrôlé son esprit. Et lorsqu'il contrôle son esprit, il ne peut plus vivre de crise, parce que la crise est le produit d'une inhabilité de l'esprit d'être en harmonie vibratoire avec le mental, à cause de la séparation de la conscience que crée son état émotif qui est la grande plaie, si vous voulez, de la personnalité humaine. Donc, l'homme est obligé de vivre une crise, à moins de vivre une fusion. S'il vit la fusion, mais à ce moment-là, il va vivre une autre sorte de crise, mais ce n'est pas une crise qui sera détrimentale. Ce ne sera pas une crise qui le plongera dans le désespoir. Ce sera une souffrance énorme qui le plongera dans une vision future de son devenir. Donc, il y aura tant d'années qu'il saura qu'il doit vivre ceci, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une crise, c'est plutôt la descente du feu cosmique à travers ses chakras qui ouvre complètement l'être, qui réorganise la personnalité, qui transmute la chimie de tous ses principes, même sur le corps matériel, et qui revitalise la conscience humaine. Donc, ce n'est pas une crise, c'est un choc. Tandis que l'homme de l'évolution ou la civilisation doit vivre la crise parce que si les hommes ou la civilisation venaient en contact avec les forces cosmiques de la fin du cycle sans avoir vécu cette crise, l'homme ferait de ces forces cosmiques encore des forces divinisantes et ce sera absolument aborté ceci. Les hommes sur la Terre, à travers les religions, à travers les systèmes spirituels, à travers les attitudes spirituelles personnelles, lorsqu'ils entreront en contact avec les forces de la nouvelle évolution, ils auront été tellement atterrés, je ne veux pas créer dans l'esprit de l'homme l'impression l'impression de fin du monde, parce que les choses ne se passeront jamais comme l'homme le conçoit ou comme l'homme le projette. Les forces cosmiques ne sont pas intéressées à l'extinction de la race. Elles sont intéressées à la transmutation d'une certaine partie de la race pour l'évolution future de la totalité de la planète, afin qu'éventuellement l'humanité passe de la cinquième à la sixième et à la septième race finale, qui donnera finalement naissance à l'évolution jupitérienne où l'homme n'aura plus besoin de corps matériel. Mais je veux dire que, effectivement, selon les événements, il y aura des crises. Si on avait parlé de Tchernobyl il y a 10 ans, on aurait paniqué. Si on avait parlé du satellite américain, de Challenger, on aurait paniqué. Donc, c'est la raison pour laquelle ces choses ne sont pas connues précisément des hommes. Et c'est la raison pour laquelle, connues des initiés, elles ne sont pas parlables, parce que les initiés sont régis par les lois de l'énergie. Les initiés n'ont pas la capacité de parler ce qu'ils veulent, ils ne peuvent que parler ce qu'ils doivent. Parce qu'à ce moment-là, si les initiés pouvaient parler ce qu'ils peuvent, ils créeraient des chocs, donc ils retarderaient l'évolution de l'homme. Il ne s'agit pas dans la masse mondiale d'aujourd'hui qui est extrêmement sensible à l'information, qui est extrêmement informée rapidement de créer de la névrose, de la psychose. Donc les hommes qui sont moindrement en contact avec les sphères, surtout ceux qui connaissent l'Alliance, ne sont pas capables de dire des choses qu'ils ne doivent pas dire. Ils peuvent le faire en privé, mais ils ne peuvent pas faire sur une tribune publique. Et c'est pourquoi ceux à qui il a été donné une certaine médiumnité, comme Nostradamus, ainsi de suite, ont été obligés de cacher ce qu'ils ont su. Donc, c'est à l'homme individuellement, sur le plan, selon sa sensibilité, selon sa conscience, selon sa télépathie intérieure, de savoir et de comprendre la signification des symboles qui ont été écrits par ces hommes extrêmement avancés en sciences occultes, tels que Nostradamus et d'autres qui existent aujourd'hui. Mais ces hommes n'ont pas le droit de répondre de façon catégorique et descriptive à la nature des choses. Ils ont la capacité et le droit d'écrire une sorte de portrait à l'aide des différentes formules symboliques qui font partie de leur siècle. Et ceci donne à ce moment-là à l'humanité la capacité d'être avertie. Vous regardez le phénomène de la Fatima, non pas de la Fatima, mais de la Madone, là.
Le Dugorje,
en Yougoslavie. Les enfants ne sont pas capables de demander des questions précises sur la nature des choses parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, parce que leur mental est déjà magnétisé par cette énergie. Donc, l'expérience qu'ils vivent est essentiellement une expérience spirituelle et s'il y a moindrement inclusion d'un matériel d'importance politique à l'échelle mondiale, il serait demandé à ses enfants de confier ces messages à certaines autorités, le pape ou des monseigneurs ou des gens qui font partie de l'ecclésiastique. Et ceci est très intelligent parce que les hommes n'ont pas la capacité émotive de subir ou de supporter des événements qui sont extrêmement conséquentiels sur le plan historique de l'évolution de la race humaine, mais qui sont donnés à l'homme dans la mesure, ou à l'humanité dans la mesure où elle est capable de prendre les chocs. Mais ceci ne veut pas dire que l'augmentation, le développement de ces chocs au fur et à mesure que nous avançons vers le cycle deviendra pas de plus en plus pénible et de plus en plus en dehors de la capacité de l'humanité ou des gouvernements d'en régir les conséquences. Et c'est là que nous verrons apparaître dans le monde des forces, des êtres, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais des forces qui prendront en main la gestion de l'humanité future. Et c'est là que commencera ce que vous appelez l'âge d'or, c'est là que les guerres cesseront, c'est là qu'il y aura équilibre entre la Russie et les États-Unis, c'est là que la Chine aura une très grande importance dans l'évolution économique de l'Orient, c'est là que le Japon aura pris une très grande conscience de son asservissement à la technologie. C'est là que la Russie aura pris une très grande conscience de son besoin de redonner au peuple russe sa liberté. C'est là que les États-Unis aura pris une très grande conscience dans son besoin de socialiser son capital. C'est là que le Canada aura pris une très grande conscience dans sa capacité intégrale de venir à l'aide de certaines nations, mais d'une façon intelligente au lieu de le faire d'une façon bête, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y aura une nouvelle conscience politique qui naîtra parce que des hommes bien placés dans le monde seront en contact avec des hommes extrêmement bien placés dans la terre.
Est-ce que la capacité d'intégrer des chocs, justement, ne dépend pas en grande partie au moins du système nerveux central de l'homme? Et si oui, est-ce que l'ordinateur que l'on voit arriver partout dans toutes les familles aujourd'hui, et je veux parler surtout des jeux vidéo pour les enfants, ne contribue pas à renforcer ou à rendre plus subtil ce système nerveux?
L'ordinateur, c'est un système à deux tranchants. Si on l'utilise bien, il a une grande valeur pour le temps présent de la nature, de notre expertise ou de nos besoins en informatique. Si nous l'utilisons mal, à ce moment-là, il va servir à enlever à l'homme sa capacité d'individualiser la connaissance. Je donne un exemple. Par exemple, si vous avez des enfants et que vous leur enseignez les mathématiques, et que vous ne leur enseignez pas comment bien diviser, comment bien multiplier, que vous les faites sauter directement à l'ordinateur, à ce moment-là, vous leur enlevez la faculté de comprendre la mécanique mathématique, et ils ne deviennent que des robots, ils ne deviennent que des êtres capables de manipuler des symboles. Et ceci n'apparaît pas aujourd'hui comme étant trop dangereux, ou trop, je n'aime pas le mot dangereux, mais trop néfaste, mais vous verrez qu'avec le temps, avec les années, ils auront perdu le plaisir d'apprendre. Et le plaisir d'apprendre est très important pour l'homme évolutif qui a encore besoin de se réfléchir dans une capacité mentale et dans un pouvoir cérébral de bien accumuler mémoriellement du matériel. Ceci fait partie du plaisir de l'ego, ceci fait partie de la sécurité de l'ego. Lorsque l'homme entre dans une conscience nouvelle, lorsqu'il entrera dans une conscience nouvelle, il n'aura plus le plaisir d'apprendre, il aura le plaisir de savoir. Ceci sera une autre étape. On n'a plus le plaisir d'apprendre lorsqu'on est conscient parce qu'on a accès à tout ce qu'on veut savoir. Mais lorsqu'on est inconscient, on a le plaisir d'apprendre parce qu'on n'est pas encore dans le savoir. Donc, le plaisir d'apprendre ne doit pas être enlevé à nos enfants parce qu'ils ont encore une contribution à faire à la société. Ils ont encore une contribution à faire à leur propre avenir. Ils ont besoin de se sentir à la mesure et à la hauteur de leur intellect, au lieu de vivre simplement en relation mécanique avec des systèmes qui sont composés à une très grande allure aujourd'hui, systèmes qui magnétisent l'ego des enfants, qui magnétisent le corps astral et qui les fascinent. Nous ne devons pas être fascinés par la machine, nous devons simplement l'apprécier, mais elle doit devenir une extension de nous, nous ne devons pas devenir une extension d'elle. Si je regarde l'avenir des cerveaux électroniques, et ainsi de suite. Il va y avoir des changements absolument énormes. D'ailleurs, nous, la science des cerveaux électroniques n'est pas encore née sur la planète Terre. Nous sommes aujourd'hui à l'aube de cette science, et la raison pour laquelle elle est très dispersée dans le monde, et la raison pour laquelle elle est très utilisée, c'est parce que nous avons des besoins pressants d'utiliser des formes de mécanicité qui nous permettent finalement d'avoir accès à de l'information rapidement. Mais viendra un moment où les cerveaux électroniques ne seront plus fondés, construits avec les principes électromagnétiques d'aujourd'hui. Ce seront des systèmes qui seront basés sur la diffraction régulière de l'orbite lumineuse à l'intérieur de l'atome convexe. Et ceci sera un nouveau modèle d'évolution et nous pourrons concentrer tellement d'informations dans ces systèmes que ces systèmes auront eux-mêmes leur propre personnalité. C'est pourquoi nous, les hommes, nous ne devons pas perdre la nôtre. Si nous perdons notre personnalité vis-à-vis de ces systèmes, nous vivrons l'angoisse que nous avons vécue dans les années 50 où souvent les gens se demandaient le computer ou le cerveau éventuellement va nous conduire. Et ce n'est pas ça. Ça, c'est simplement une inquiétude de l'homme. Mais l'homme ne doit pas perdre sa conscience, ne doit pas perdre sa personnalité face à ces machines, parce que ces machines deviendront extrêmement avancées, et les sciences et la science et le secret de cette nouvelle science sera donné par des initiés à des scientifiques réunis dans le monde, et lorsque ce sera le temps, la science de la cybernétique, la science des cerveaux électroniques sera amenée à un nouvel âge, un âge qui conviendra parfaitement à la quadrature de Saturne, Pluton, Genèse et Fumus, qui sont des planètes invisibles et qui serviront au support électronique de l'énergie qui, dans ce temps-là, aura une courbature éthérique pour le renforcement de l'atome et la désintégration instantanée de toute information électrique afin de permettre que l'information qui entrera dans ces systèmes puisse aller dans l'énergie et revenir de l'énergie et qu'elle puisse elle-même devenir intelligente. Donc, les cerveaux électroniques de l'avenir seront intelligents. Nous pourrons leur parler, mais ils ne seront pas intelligents comme ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont simplement bavards. Demain, ils seront réellement intelligents et ils remplaceront les fonctions mécaniques de l'homme. Et l'homme pourra finalement commencer à composer avec les infinités d'une nouvelle dimension, alors que ces systèmes serviront à maintenir en place l'équilibre des systèmes mécaniques.
L'homme va devenir semblable au Dieu, il va devenir créateur.
L'homme sera créateur et les machines le serviront très bien. Il y aura même des cerveaux, des machines extrêmement semblables sur le plan de la forme à l'être humain. Et ceci existe parce que nous avons, dans l'expérience de nos gouvernements aujourd'hui, des sondes qui viennent d'autres planètes. Et ce sont des êtres, mais ce ne sont pas des êtres qui possèdent un esprit, ce sont simplement des clones qui sont une forme très avancée de l'architecture mentale de l'atome imposée à une dimension magnétique qui est codée sur un modèle de forme humaine que nous appelons les clones.
J'ai lu à ce propos un article de généticien qui justement venait de renoncer à travailler au niveau de la génétique parce que ça posait un très gros cas de conscience au niveau du clonage justement, dans le sens qu'aujourd'hui ils étaient capables très facilement de faire un clone d'un individu, un double parfait, et qu'ils entrevoyaient la possibilité que la société récupère cette expérience et utilise ce clone comme des pièces de rechange pour des greffes d'organes. Donc ça posait un très gros cas de conscience, parce que le clone, lui, est identique à l'être humain, mais il est là seulement lorsqu'on a besoin d'un cœur, d'une greffe de poumon, ou du foie, ou n'importe quoi.
Oui, nous avons l'estomac.
Ils ont démissionné.
Oui, nous avons l'émotion trop fragile pour ces expériences à cet âge-là, mais... Et c'est bon que la question se pose parce que il y a certainement...
On pourrait être nous-mêmes un clone, arriver sur Terre puis être le produit du clonage. Imaginez-vous que vous êtes dans la peau d'un clone et que vous êtes là en attente que l'autre a besoin de votre cœur, qu'on vous l'enlève. Et puis que...
Oui, j'écrirai lorsque j'aurai le temps sur le clone, sur le clonage. Il y a... Vous savez, je vous disais ce soir à la table que je suis rendu... mon livre, il est rendu épais comme ça, et je ne peux pas l'arrêter.
Pour y en passer la moitié à drapeau.
Oui, il faudrait que je fasse quelque chose. Mais j'ai hâte d'arrêter d'écrire, parce que j'ai arrêté les chapitres, finalement. Mais j'ai hâte d'arrêter d'écrire, mais je ne peux pas arrêter pour le moment, parce que il a une vie par lui-même. Ce n'est pas l'homme qui écrit, ça écrit. Donc l'homme doit respecter le temps, ainsi de suite. Mais c'est un thème, ça. Que je touche un jour, parce que ce sera
Pour finir, est-ce que l'ONU est un embryon de ce gouvernement transnational?
L'ONU représente l'aspect astral, planétaire de cette éventualité, mais l'ONU ne représente pas le germe vital et créatif de cette entité. L'ONU est simplement un symbole psychologique, psychopolitique d'une possibilité astralisée dans le mental de l'homme. Autrement dit, c'est comme si on a projeté dans le mental de l'homme une image d'une possibilité qui est impossible dans le cadre de son expérience. Mais c'est une prévision. C'est un peu comme les films que vous voyez, Star Wars. Tous les films que vous voyez, ce sont des projections astrales, des possibilités éventuelles. Mais comment ça se fera?
Comme un voleur dans la nuit.
Oui, exactement. Oui, comme un voleur dans la nuit. D'ailleurs, tout ce qui est cosmique vole dans la nuit.
Merci beaucoup. Ça va.